Bonsoir, chers auditeurs. J'avais envie de vous parler d'un lieu ouvert 363 jours par an, c'est-à-dire qu'il est juste fermé ben, le jour de Noël et le jour de l'an. Voilà, tout le reste du temps, vous pouvez y aller. Et c'est le musée des arts et métiers du livre, porté par l'association Montaulieu Village du Livre. Et donc, c'est sa directrice, Claire Taoussi, qui va nous en parler. Bonsoir, Claire.
Bonsoir, Valérie.
Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez ce que peuvent découvrir nos auditeurs chez vous, dans votre musée.
Alors, au Musée des Arts et Métiers du Livre, comme son nom l'indique, nous y découvrirons l'histoire des écritures, l'histoire du papier, qui nous mèneront directement vers l'évolution de la typographie, donc l'histoire de la typographie et de l'imprimerie, en découvrant des presses assez extraordinaires qui ne sont plus en fonctionnement aujourd'hui, mais dont on peut découvrir l'histoire et les techniques, des presses qui ont été utilisées dans l'imprimerie industrielle, notamment pour la fabrication des grands journaux jusque dans les années 60. On évoluera vers la presse lithographique. On y découvrira au premier étage l'atelier du graveur et l'atelier du relieur, dont les techniques de gravure, la xylographie, la taille douce et les différentes techniques dérivées. Dans l'atelier de reliure, on trouvera l'ensemble des outils du relieur. Et une chose intéressante, c'est que chaque jeudi, on peut y retrouver Marie Melon, notre relieur d'art, qui a installé son atelier de reliure et qui reçoit le grand public au sein du musée.
Il y a donc plein d'ateliers pédagogiques. Alors, j'aimerais revenir justement sur ces machines, parce que quand on passe devant le musée dans Montaulieu, vous avez des grandes vitrines et on voit toutes ces vieilles machines d'anciennes imprimeries. Alors, pour les gens néophytes, ce qui est quand même la majorité certainement des gens qui viennent vous voir, c'est vrai que ça nous fait penser aux journaux et autres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui explique, parce que je sais qu'il y a aussi des visites guidées sur le musée, et je pense que c'est important, ou est-ce qu'on peut le faire libre? Et c'est assez explicite pour que les gens quand même s'y retrouvent et sachent un peu à quoi servaient ces machines et l'évolution. Voilà.
Alors, une des machines phares, il y a deux machines phares, la linotype et la presse offset. La linotype avec laquelle encore aujourd'hui en France et en région parisienne, il existe une imprimerie, peut-être deux, mais de moins en moins en tout cas et malheureusement, qui utilisent encore ces procédés typographiques.
Pourquoi vous dites malheureusement ?
Peut-être la nostalgie des choses faites parfaitement avec une maîtrise artistique et technique et les connaissances des règles typographiques qu'aujourd'hui, force est de le constater, certains de nos infographistes et de nos éditeurs ont oublié les règles fondamentales de l'édition, de l'orthographe, de la mise en page et du...
Parce que c'est
non mélange,
en fait.
Parce que c'est informatisé, parce qu'on a l'impression que plus on en fait et mieux c'est, plus on ajoute de typographie et plus c'est beau. Or non, je pense que la simplicité, la beauté, quelle qu'elle soit, dans toutes ses formes, plus elle est simple, plus elle est dénudée, plus elle montre avoir le cœur vrai, donc mieux elle est choisie en typographie et plus elle sera forte et plus elle aura d'impact. Je compare souvent ça à une femme et son maquillage et à qui on pourrait dire « mais qu'est-ce que tu as bonne mine ?» Pour moi, les femmes qui ont bonne mine lorsqu'elles sont maquillées, c'est un maquillage extrêmement discret qui donne simplement un joli regard, un beau sourire, mais pour lequel on ne voit pas la trace de rouge ou de bleu. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas un esprit passéiste ou conservateur, encore que, mais parce que l'évolution qui est la nôtre nous amène parfois à oublier des fondamentaux qui sont malgré tout indispensable dans l'édition. Ça ne supporte pas la médiocrité orthographique et des mises en page insupportables fatiguent les yeux. On referme les yeux et on ne va pas jusqu'au bout des lectures. Donc les maîtres linotypistes connaissaient ces règles-là, les utilisaient et ces savoir-faire ne sont peut-être pas aujourd'hui suffisamment transmis et les jeunes qui se lancent dans l'infographie et dans l'édition aujourd'hui profitent évidemment de toute la facilité numérique et technologique, et on oublie peut-être parfois le respect des règles qui ont fait des ouvrages exceptionnels qui aujourd'hui sont tombés dans le domaine de la bibliophilie, c'est-à-dire du livre ancien, du livre rare, du livre précieux, qui est peut-être un petit peu moins accessible, mais qui traduit toute notre culture littéraire d'illustration autour de la poésie, de la littérature et des très très grands illustrateurs qui ont bénéficié de mise en page typographique et d'édition véritablement remarquable sous des formes assez simples finalement. Il n'y avait pas de superflu. Voilà. Donc cette machine qui la linotypie donc est encore utilisée par quelques linotypistes en France et quelques éditions y ont encore recours, des petites maisons d'édition dont les ouvrages sont de toute beauté. Et effectivement, quand vous ouvrez ces livres, vous avez affaire à un très bel objet qui donne envie d'aller jusqu'au bout de la lecture, voilà.
Mais d'ailleurs, il m'est arrivé de visiter le musée et de m'y retrouver justement avec des anciens de l'imprimerie, et on sent qu'il y a aussi une histoire d'hommes parce que ces hommes sont très attachés à ces anciennes machines. Donc c'était assez émouvant. Mais donc ça veut dire que quand on vient visiter le musée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous l'explique comme vous venez de le faire, parce que ça c'est intéressant effectivement. Est-ce qu'on peut le comprendre seul? Est-ce qu'il y a des panneaux qui expliquent
Alors le musée est en visite libre bien entendu, accessible à tous et notamment aux personnes handicapées. Je le précise parce que c'est un public que nous privilégions, que ce soit des handicaps mentaux ou physiques. Nous ouvrons avec le plus grand plaisir notre musée à différents publics et peut-être particulièrement à ceux qui ont le plus de mal pour s'y rendre. Ce qui veut dire que même s'ils viennent en visite libre, notre sensibilité humaine et associative se tournera toujours vers ces publics pour apporter toutes les explications nécessaires. Mais pour répondre à votre question, oui, le musée se visite d'une façon libre et les panneaux explicatifs apportent, si on se donne la peine de les lire, les informations nécessaires. Alors, il est vrai que ça peut sembler parfois un petit peu rébarbatif et à ce moment-là, je vous invite évidemment à profiter tous les premiers dimanches de chaque mois de la visite guidée faite par notre guide au sein donc, du musée de 14h à 15h et là, vous avez des explications
oui, certainement plus
extraordinaires
et plus abordables pour le grand public.
Pour le grand public et pour les enfants. Voilà.
En plus, voilà. Donc très bien, visite guidée donc, le premier dimanche de chaque mois. Et ensuite, donc, vous nous avez parlé des ateliers pédagogiques, donc de Marie Melon qui a des ateliers de relure, mais je crois qu'il y a aussi Lucille Gesta, la calligraphe.
Lise Paramon, l'enlumineur. Nathalie Louveau, l'illustratrice. Laurent Mallard, le caricaturiste. Anne Réby, le graveur. Adélaïde Magnier, le typographe. Et moi-même qui présente une vision globale autour des métiers du livre qui s'adresse davantage aux lycéens ou aux universitaires. Donc en fait, on peut venir découvrir au sein du musée via les artisans qui expliquent leur métier dans les règles de l'art. C'est ça que nous cherchons à transmettre et à apporter au grand public ces pratiques dans les règles de l'art desquelles vivent encore aujourd'hui tous les artisans, malgré le fait qu'ils soient dans des niches extrêmement sensibles, parce que pour trouver les clients c'est pas toujours simple. On ne pense pas toujours aujourd'hui à faire relier ces livres par un artisan ou à se faire une gravure particulière.
Alors c'est quelquefois aussi par méconnaissance, parce que c'est vrai que la reliure, on a toujours besoin, mais on ne sait pas toujours où trouver un bon relieur. Donc c'est effectivement bien de savoir que c'est possible donc à Montaulieu, au musée. Et donc on peut aussi faire de nos mains. Donc ces ateliers nous permettent également de réaliser des choses avec l'aide évidemment de l'artisan.
Absolument Valérie, chaque participant écoute dans un premier temps la présentation de l'artisan et très rapidement va mettre les mains en pratique, et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur de faire valoir l'intelligence de la main. Parce qu'à Montaulieu, il y a l'intelligence cérébrale, intellectuelle, qui est très fortement présentée et auxquels on peut avoir accès au sein de toutes les librairies de Montaulieu. Au musée, c'est certes une approche intellectuelle, mais avant tout artisanale, l'intelligence de la main. Et chacun des participants va œuvrer avec l'artisan pour produire sa gravure, son illustration, sa calligraphie ou sa typographie et repartir avec.
Et ça coûte combien, Claire ? parce que c'est le nerf de la guerre.
Ça coûte 30 euros pour un atelier particulier pour une personne. Pour Noël, nous proposons effectivement des cartes cadeaux à 30 euros pour un atelier. Si vous constituez un groupe de 8 à 10 personnes, ça sera 15 euros par participant.
Ah oui, 50% donc de réduction, c'est intéressant.
Je vous invite à venir en famille.
Mais absolument, voilà. Ça peut être une belle idée de cadeau, puis après une belle idée de partage. Et puis bien évidemment, il y a des expos, on va finir avec ça avant de parler de vos coups de cœur touristiques.
Alors, les expositions, il y en a en moyenne 4 à 5 par an. L'exposition du moment est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, avant d'enchaîner sur mes coups de cœur, c'est une présentation de notre fonds de bibliophilie François Bernoir. François Bernoir fut un poète, typographe, imprimeur, éditeur et libraire. Alors comment vous dire, chère Valérie, à lui tout seul, il représente tout. Tous les métiers de Montolieu. Il a été l'un des plus grands typographes du début du XXe siècle, qui a remis au goût du jour les beaux livres, la bibliophilie, et qui a édité avant l'heure, avant les heures de gloire, les grands surréalistes dont il fut l'ami. Il décède juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a participé, il a été censuré durant la Seconde Guerre mondiale, mais a maintenu malgré tout ses éditions. Mais il a surtout, et on en vient à l'exposition qui est présentée en ce moment, participé, il s'est engagé lors de la Première Guerre mondiale et il a participé activement, a été blessé, évacué et soigné, et il a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui fait l'objet de l'exposition du moment, Franchise militaire, pour lequel il a reçu le Grand Prix de la Maison de Poésie en 1935, pour ce témoignage très très émouvant, poétique, d'une sensibilité à fleur de peau sur la situation des soldats durant la guerre et leur sensibilité. Donc c'est une exposition plutôt littéraire. Il y a beaucoup de choses à lire. Il y a surtout donc les textes qui ont été présentés pour la première fois de François Bernoir, et vous retrouverez également des ouvrages de bibliophilie et des gravures de toute beauté.
Et donc, elle a commencé cette expo, c'est à partir de...
Elle a commencé, elle est en cours.
Elle est en cours.
Et on peut la voir jusqu'au 31 mars 2015.
Ça va, ça laisse un petit peu de temps. Et en tout cas, ça fait une belle occupation pour les vacances de Noël. On écoute le dernier album de Charlie Winston et on se retrouve pour les coups de cœur touristiques de Claire Taussi.
Waited a little
Et vous êtes toujours sur RCF Pays d'Aux dans le magazine Pays de Carcassonne, toujours en compagnie de Claire Taoussi, directrice de l'association Montolieu Village du Livre et du Musée des Arts et Métiers du Livre. Eh bien, nous allons parler des coups de cœur touristiques de Claire et on va commencer par le coup de cœur touristique dans le monde, hormis la France, Claire.
En introduction, chère Valérie, vous dire que pour moi, les coups de cœur seront autour du bassin méditerranéen et le monde, pour moi, sera celui de la Méditerranée autour duquel des très très grandes choses ont eu lieu. Alors, la première destination, eh bien, je choisirai avec tout mon cœur, toute mon âme, Florence, évidemment, Florence.
Ah, très belle ville.
Et puis, au sein de cette ville d'art et de magnificence, je choisirai un édifice assez discret, humble, mais qui détient des purs bijoux de l'art et particulièrement du Quattrocento, c'est l'église des Carmines. L'église des Carmines, qui est dédiée à la Vierge du Carmel, est un édifice culturel et religieux, évidemment, construit au XIVe siècle, presque entièrement détruit par un incendie en 1771 et qui a été donc restauré. On y trouve notamment des fresques des peintres de Masolino et surtout Masaccio, la tentation d'Adam et Adam et Ève chassés du paradis, qui sont des peintures qui vous font jaillir toutes les émotions les plus enfouies. On ne peut pas regarder ces œuvres sans avoir une larme. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas et ça a été une immense émotion. J'ai été totalement subjuguée malgré moi, entourée de beaucoup de public, et cette émotion qui m'a saisie et qui a, on peut peut-être oser dire un terme comme ça, transcendantée véritablement. C'est un coup de cœur que je garderai pour de très très longues années.
Et puis ça parlera aussi à nos auditeurs. Et puis c'est bien de découvrir des lieux un peu moins connus, parce que Florence, on pense de suite à la cathédrale, mais il y a plein d'autres choses. C'est vraiment une ville très riche. Coup de cœur touristique en France, hormis le Languedoc-Roussillon.
Alors, coup de cœur eh bien pour notre capitale, pour y avoir fait de très très longues promenades pendant de très très longues années. Là encore, les lieux sont superbes de tous côtés et je choisirai une manifestation et un lieu humble et simple, encore une fois, qui est la mairie du 4e arrondissement. Alors, on n'est pas dans l'un des plus grands musées parisiens, ni édifices parisiens. Cependant, on y trouve une manifestation remarquable à laquelle je tire mon chapeau, qui est le Maghreb des livres. Le Maghreb des livres qui mettra cette année à l'honneur un éditeur qui est peu connu aujourd'hui, mais qui en son temps fut célèbre, en tout cas par son engagement et son courage, c'est Edmond Charlot, dont 2015 fêtera le centenaire. Et nous pourrons retrouver au sein de la manifestation Le Maghreb des livres les auteurs qu'Edmond Charlot édita. Voilà, donc le principal auteur qu'a édité Edmond Charlot, en tout cas l'un des plus connus par notre public, c'est peut-être Albert Camus qui écrivit à l'époque son premier ouvrage L'envers l'endroit et que Charlot éditera. Évidemment, je vous recommande vivement Mouloud Feraoun.
Et le coup de cœur touristique en Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude ?
Le musée Paul-Valéry Asset, où on trouve environ 300 documents et œuvres de Paul-Valéry, qui sont tout à fait remarquables. Le premier manuscrit de Paul-Valéry sur le cimetière marin, de la bibliophilie concernant Paul-Valéry, une présentation de ses poèmes et de ses aquarelles. Et il faut impérativement redécouvrir, revisiter Paul Valéry et le musée, qui présente également un fonds d'œuvres classiques, académiques et orientalistes de toute beauté.
Et de très belles expos.
Et de très très belles expos.
Temporaires, mais qui sont
et de très,
très,
très
haute qualité.
Expositions temporaires, effectivement.
Sans compter la vue sur le port de Sète. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. Coup de cœur touristique dans l'Aude, hormis le pays carcassonnais.
immanquablement, pour rester peut-être dans l'univers logique qui est le mien, c'est la grâce et l'association Le Marque-Page et les amis du Banquet du Livre. Ce sont des rencontres qui ont lieu maintenant quasiment à chaque saison, printemps, été, automne, en tout cas pour les banquets. Ce sont des rendez-vous littéraires qui présentent donc des auteurs de littérature contemporaine. Ça a trait à la pensée, à la littérature, à l'écriture, aux éditions contemporaines, je le redis. Nous pouvons là y rencontrer et discuter et échanger avec des auteurs, des plasticiens, et ce sont des rendez-vous faciles, libres, en entrée gratuite, je le redis, qui s'adressent vraiment à tout public. La littérature n'est pas réservée aux personnes qui ont tout lu,
c'est bien
ça
de le redire,
ne servirait à rien. On n'est pas obligé d'avoir lu tous les livres des éditions Verdier pour se rendre à la grâce, surtout pas. Il faut y aller simplement en famille, il faut initier nos enfants à l'écoute, à la lecture, à la littérature et à la rencontre humaine avant tout.
Je crois que c'était bien de le redire, effectivement, il faut passer cette barrière. Et pour finir, Claire, le coup de cœur en pays carcassonnais.
Écoutez, vous peut-être me retrouverez bien là, et dans ma logique, inévitablement, un homme mystérieux, passionné, qui anime un centre remarquable, c'est le centre Jouet-Bousquet. Le centre Jouet-Bousquet, là encore, un lieu...
Donc à Carcassonne.
À Carcassonne, avenue de Verdun à Carcassonne, un lieu public, ouvert au public et gratuit pour le public quasiment toute l'année. Pas quasiment, gratuit toute l'année et quasiment ouvert toute l'année au public. On y trouve là la chambre reconstituée du grand poète Jouet-Bousquet. Chambre dans laquelle on retrouvera toute l'ambiance, l'atmosphère parce que, de Jouet-Bousquet qui accueillera ses amis surréalistes, les plus grands peintres passeront de longues heures à son chevet et les créations qui sortiront de ces échanges sont remarquables et sont depuis de très nombreuses années, présentées au sein du centre via des expositions, des lectures à voix haute, différents ateliers et des visites guidées menées par un homme tout aussi discret que le peintre, René Pignès,
qui est le directeur, donc,
qui est le directeur du centre Jouet-Bousquet. Les expositions sont de toute beauté et présentent les œuvres littéraires et artistiques et une grande partie est consacrée aux livres d'artistes.
Ben merci beaucoup Claire pour ces coups de cœur, c'était fort intéressant et j'espère, chers auditeurs, que ça vous aura donné envie d'aller voir tous ces lieux mythiques.